Michel Lagacé, le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, a été réélu finalement. À peu près tout le monde a voté pour lui, là, sauf en fait, il y a eu la très grande majorité des votes. C'est 3 votes pour le maire de l'Île-Verte, Serge Forêt. Fait que si on inclut que M. Forêt a voté pour lui-même, ben ça veut dire qu'il y a 2 autres maires qui ont voté pour lui. Qui sont-ils? J'en ai aucune idée. Remarquez bien que de la même manière que M. Lagacé a dû voter pour lui, là, habituellement, tu fais pas exprès pour voter contre ton adversaire. En tout cas, c'est de la manière dont on voit ça dans les meilleures familles. On va aller parler avec Michel Lagacé à l'instant. Bonjour, M. Lagacé.
Bonjour, c'est bien.
Bon, évidemment, la question qu'on s'est posée ce matin, c'est que ce vote-là n'a pas été pris en catimini, c'est-à-dire qu'il a été pris dans une séance publique du Conseil des maires de la MRC, mais en même temps, ça s'est pas su d'aucune manière, à moins, je sais pas, moi, d'avoir assisté au conseil municipal de sa municipalité, puis encore.
Ben, essentiellement, dans le fond, c'est la procédure habituelle, c'est-à-dire que une fois aux 2 ans, il y a l'élection à la préfecture et en 2010, c'était l'élection du préfet. Et en l'occurrence, le directeur général a décrété la procédure à suivre. Donc, il fallait la majorité des votes absolus qui soient exprimés, c'est-à-dire 13 votes minimalement là, pour qu'un préfet soit élu.
Mais démocratiquement parlant, bien qu'il n'y ait pas en apparence d'entorse à la procédure, ouais. Je me demande quand même, moi, en tant que citoyen, s'il serait pas tout à fait normal que les citoyens soient informés que tel soir, au Conseil des maires de la MRC, les maires de la MRC vont avoir à élire un nouveau préfet, que c'est le maire X qui se présente contre le maire Y et que ce soir-là... Je vous donne un exemple, là. Mettons que les gens de la municipalité de Saint-Arsène vont voir leur maire puis disent à leur maire, ben garde, moi, là, j'aimerais bien ça que tu votes pour Forêt parce que Lagacé, on est tanné de le voir là. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, mais en l'occurrence, M. Saint-Pierre, c'est pas un individu, un maire contre un autre maire. Là. C'est un vote secret. Puis il n'y a pas personne avant qui a manifesté publiquement de l'intérêt pour le poste. Les gens vont à l'arrière de l'isoloir et votent pour la personne qu'il souhaite voir comme préfet. C'était pas Michel Lagacé contre Serge Forêt. Il n'y a pas eu de proposition de la avant qu'il ait été décrété. Donc, le directeur général sollicite la participation des maires présents, en l'occurrence par l'entremise des votes de chacun, c'est-à-dire, comme vous le disiez ce matin, 12 votes pour ce qui est de la ville de Rivière-du-Loup, 2 pour ce qui est de Saint-Antonin, et 1 pour ce qui est des autres municipalités locales. Et il invite les gens à voter pour la personne qui souhaite voir devenir préfet.
Ouais.
C'est de la façon dont ça se passe.
OK. Non, je comprends très bien. Puis c'est pas parce qu'il y a un citoyen qui va aller voir le maire puis va dire ben moi je voudrais que tu votes pour un tel que c'est de même que ça va changer le vote ou l'idée du maire en question. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que le préfet n'est pas un individu qui travaille en vase clos. C'est un individu qui est là pour répondre aux demandes des citoyens, aux demandes des maires qui ont été élus par des citoyens. Et je trouve que d'apprendre que c'est fait 3-4 jours plus tard, ben c'est comme de dire aux citoyens, on a décidé ça entre nous autres, de toute manière, vous n'avez rien à voir là-dedans, alors que je pense que le citoyen a un petit peu à voir là-dedans, à preuve, dans certaines MRC, on fait élire au suffrage universel.
Tout à fait, et je pense que la pratique va s'améliorer à partir de janvier. Normalement, nos séances vont être en séance publique, et les gens vont pouvoir avoir accès par l'entremise de notre site web. Donc ça, je pense que ça va améliorer la participation citoyenne au niveau des séances du Conseil de la MRC à distance, en espérant que ça va susciter l'intérêt pour être présent au Conseil de la MRC, qui sont publics.
Oui. Maintenant, et évidemment, on a prétendu, et là je fais référence à votre observateur particulier, Roger Plante, lui prétend que le fait que ce soit maintenant rendu public via le web, que ça va changer au niveau de l'attitude des gens autour de la table. Est-ce qu'on est obligé de lui donner en partie raison?
Ben, pas du tout. Je ne verrais pas en quoi ça va changer la nature des décisions qu'on a à prendre et la façon dont on va prendre les décisions. Je pense que ça va continuer à se faire de la même façon que ça s'est fait dans les 27 dernières années.
Oui, donc ça veut dire qu'à l'occasion, ça pourrait être un peu loufoque.
C'est rarement loufoque. C'est sûr qu'on aime bien à l'occasion avoir un peu de plaisir autour de la table, ce qui soit dit en passant n'est pas péché. Alors, de travailler en ayant du plaisir dans la vie, c'est pas péché. En l'occurrence, nos maires, certains de nos maires ont de l'humour et ça aide des fois à détendre un peu l'atmosphère. Ça fait pas de tort, ça non plus.
Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on aurait le même genre d'humour s'il y avait plus de monde dans la salle ou si on sait qu'on est présenté en public? Poser la question, je pense que, honnêtement, c'est y répondre.
Ben, regardez, moi, je pense que on a une belle qualité au niveau des citoyens de comté, des maires, pas des citoyens, mais des conseillers de comté au niveau de la MRC. Les maires qui sont là œuvrent de belles façons, relèvent de nombreux défis. Et je le répète, avoir du plaisir en travaillant, je pense que c'est une belle façon de voir les choses.
OK. En tout cas, on verra ça à l'usure. Dites-moi, M. Lagacé, là, vous êtes réélu pour 2 ans. Est-ce que la prochaine fois pourrait être celle où on élira un préfet au suffrage universel, bien que faut pas s'attendre à un taux de participation qui va dépasser ben probablement entre 18 et 22 % là?
Donc, pour bien comprendre, mon mandat va venir à échéance en 2012. Il va rester une année avant l'élection commune de l'ensemble des élus du Québec. Donc, on parle de novembre 2013. Et à ce moment-là, comme j'expliquais la semaine passée à la séance du Conseil de la MRC, on va, en 2013, prendre position pour l'élection au préfet au suffrage universel. Si oui ou non, on va aller vers cette donnée-là.
Oui, d'accord. Maintenant, quels sont les principaux défis qui vous attendent, là, comme préfet qui, finalement, a libre cours maintenant pour poursuivre ses engagements puis ses gros dossiers?
Bon, essentiellement, moi, je pense que on est en train de mettre en place un office régional d'habitation à partir des offices municipaux d'habitation. Ça, c'est sûr que c'est une compétence qui est à la hauteur de la MRC. C'est une compétence qu'on peut déclarer et qu'on va déclarer. Et ce qui est clair, cependant, c'est qu'il y a d'autres dossiers qui sont aussi très mobilisants. Je pense à tout ce qui est du projet éolien communautaire ou sur lequel on est en attente de la décision d'Hydro-Québec. Et ça, je pense qu'on est vraiment en appétit par rapport à ce dossier-là. Après plus de 6 ans d'attente pour un projet de développement éolien dans la MRC, on est dû pour en avoir un intéressant. L'autre chose, c'est tout ce qui est du projet de la Société d'économie mixte, la SEMER, en ce qui est très biométhanisation. C'est un dossier qui va solliciter pour 2011 toutes nos énergies pour effectivement en assurer la réalisation. Et la même chose aussi pour l'ensemble des dossiers quand on parle du réseau au niveau de l'expertise et de développement biométhanisation. C'est des dossiers qui intéressent la MRC des Rivières-du-Loup. Et il y a bien d'autres dossiers. Je pense entre autres à tout ce qui est de la gestion des droits publics. C'est une nouvelle compétence, une nouvelle entente qu'on a signée avec le gouvernement du Québec. Et cette entente-là, dans le fond, on a affirmé notre volonté d'y aller au printemps dernier, donc au printemps 2010, comme l'ensemble des MRC du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est deux dossiers qui vont nous permettre de cheminer de belle façon, de vous dire aussi qu'on a une entente du support local à la satisfaction des partis. Je pense que c'est aussi une bonne nouvelle, une entente sur 5 ans. Donc ça, je pense que c'est une bonne nouvelle, puis ça fait preuve de la maturité du Conseil de la MRC sur ces dossiers-là.
Oui. Quelle est la position du Conseil des maires sur les fameux gaz de schiste et leur exploration?
Il n'y a pas eu de discussion formelle sur ce dossier-là. Dans notre cas, nous, ce qu'on souhaite, un peu comme en développement éolien notamment, c'est de connaître l'encadrement qui est offert par le gouvernement du Québec, en même temps aussi de s'assurer d'avoir un maximum d'informations au niveau des élus et de la population. C'est souvent une fois ce qui a manqué à l'origine en développement éolien, c'est un peu ça. L'absence de suffisamment d'encadrement et d'orientation au niveau du gouvernement du Québec n'avait pas facilité le lancement de la filière. Je pense que c'est un peu la même chose à ce moment-ci.
Et évidemment, il y a deux écoles de pensée qui s'affrontent, puis pourtant, il me semble qu'il n'y a pas raison d'avoir un affrontement là-dedans. C'est que si on veut obtenir plus d'informations avant de prendre une décision, il me semble que le gouvernement du Québec devrait mettre un moratoire. Comment tu peux continuer d'avancer, puis en même temps, demander de l'information? Il faut que tout le monde soit informé égal là-dessus, et pas au cas par cas, si on veut.
Ben, dans notre cas, nous, autant en développement éolien que si je pense au niveau de la crise Bas-Saint-Laurent, on n'a jamais souhaité d'avoir de moratoire sur les éléments. Ce qu'on souhaitait davantage, c'est effectivement c'est quoi le cadre qui est fourni par le gouvernement du Québec, c'est quoi les orientations gouvernementales là-dessus, et de quelle façon, dans le fond, les élus municipaux peuvent être le mieux informés possible, puis en même temps aussi de quelle façon les citoyens du territoire peuvent être le mieux informés possible. À partir du moment où l'information est disponible pour tout le monde, puis qu'on comprend les impacts, puis si effectivement c'est des impacts trop négatifs, Moi, à ce moment-là, je pense que c'est là où on doit mettre le moratoire. Mais tant si longtemps qu'on ne s'est pas fait une taille, donc d'avoir l'ensemble d'informations, ça m'apparaît présomptueux de demander un moratoire.
Mais justement, c'est ce que j'arrive pas à saisir. Puis en toute bonne foi, parce que l'autre soir, j'écoutais là, les artistes là, qui débattaient de ça, tout le monde en parle. Et je me disais, je comprends pas. Si le gouvernement lui-même n'a pas toutes les informations, il me semble que la première chose que tu fais, c'est que tu mets un moratoire, t'arrêtes ça là, tu vas chercher toutes tes informations, puis après, tu repars. C'est comme quelqu'un qui serait sur la route, puis il est perdu, puis plutôt de s'arrêter puis regarder sa carte, il dit, m'ont roulé pareil, si on est chanceux en cours de route, on va retrouver le chemin en roulant, peut-être pour s'apercevoir qu'il a fait 75 kilomètres de trop, il n'était pas du bon bord.
Mais actuellement, il n'y a pas d'exploitation, il y a d'exploration qui se fait. Ce qui est souhaité, puis je pense, c'est de voir de quelle façon les technologies qui sont actuellement disponibles permettent effectivement de respecter l'environnement et de maintenir nos nappes phréatiques en qualité. C'est ça que les citoyens veulent savoir actuellement. Est-ce que ce qui est disponible pour faire l'exploitation des gaz de schiste permet, dans le fond, le respect de l'environnement? Et en l'occurrence, la démonstration, ce moment-ci, n'est pas encore suffisamment faite pour les élus et les citoyens. Quand cette démonstration-là va être faite ou non, à ce moment-là, je pense que ça sera possible de demander de mettre en place un moratoire. Pour l'instant, je pense qu'on n'est pas à ce niveau-là.
Oui. Le budget de la MRC pour la prochaine année, c'est à combien?
On parle de 6,3 millions de dollars. C'est une hausse... Dans le fond, une hausse de 1,7%, mais dans le cas des Cap-Ports, on parle d'une hausse de 7,9%. Là, et essentiellement, ce que c'est dû, c'est tout ce qui est de l'augmentation au niveau des Cap-Ports, au niveau du poids local. On parle d'environ près de 100 000 $. On parle aussi d'environ 110 000 $ pour ce qui est des offices municipaux d'habitation. Mais ça, c'est une Cap-Port qui était déjà assumée par chacune par 6 municipalités sur 13 de la MRC. Donc, le fait qu'on déclare compétence au niveau de la MRC, on vient répartir le 110 000 $ au niveau des 13 municipalités.
Ouais.
Et on parle aussi des équipements là, comme l'école de musique, où on peut se dire qu'en 2011, elle va être en opération. Donc, on parle de 43 000 pour l'école de musique. Le centre d'archives, parce que les fonds d'archives, c'est extrêmement important. Quand on parle d'un territoire comme le nôtre, on parle d'un investissement de 26 000 $. Et le musée du Bas-Saint-Laurent, qui est aussi une institution régionale fort importante, on parle d'un investissement de 7 500 $. Donc, ouais. Ça explique grosso modo les variations au niveau des Cap-Ports.
Ouais. Les estrades couvertes du festival Country de Saint-Antonin ne feront pas partie du supralocal. Ça, je pense que ça a été écarté assez vite. Est-ce que là-dedans, le maire Thibault a erré? C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles ça peut pas être supralocal, est-ce que ce sont des raisons que le maire Thibault aurait dû connaître et depuis longtemps?
Dans le cas de M. Thibault, il n'a pas erré. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-ci, l'ensemble des données qu'on a souhaité avoir pour les autres équipements, c'est-à-dire le budget, la fréquentation, le déficit ou le bénéfice, n'était pas connu à ce moment-ci pour ce qui est de la municipalité de Saint-Antonin. C'est-à-dire le budget, ça fait quand même pas une année de roulement qui y est fait. La fréquentation, on va comprendre que il n'y a pas encore une année non plus de fréquentation en ce qui a trait aux estrades. Donc, il manquait des éléments pour qu'on puisse apprécier la demande de Saint-Antonin.
Mais pourquoi vous dites qu'il n'y a pas eu une année de fréquentation? L'année passée, les estrades étaient là au festival?
Non, mais c'est parce que ce qu'il faut voir, c'est, M. Saint-Pierre, on n'a pas une année. L'année financière n'est pas terminée pour ce qui est des estrades. Quand l'année financière va être terminée, on va avoir une justification au niveau de l'ensemble des visiteurs, est-ce qu'ils proviennent effectivement de l'ensemble du territoire de la MRC de Vierzoux, est-ce que ça a un bénéfice ou un déficit? Donc, quand on va voir ces éléments-là, on va être capable de l'analyser. C'est ce qu'on s'est engagé avec le maire de Saint-Antonin.
OK. Pendant qu'on faisait l'entrevue, il y a un petit papier qui m'est arrivé, comme ça se produit à l'occasion. Quelqu'un qui me dit que... Et là, je sais pas qui ça vient, mais je m'en doute si vous avez un seul spectateur à la séance des maires. Un petit papier qui m'arrive pour me dire que à la séance des maires, pendant qu'on avait commencé le dépouillement du vote, il y a un maire qui a dit « Hey, j'ai pas voté, moi! » et qui a complété son bulletin de vote sur le coin de la table pendant qu'on dépouillait le vote. C'est vrai ou c'est faux?
Bon, regardez, dans mon cas, moi, là, j'étais occupé à discuter avec des étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup qui sont en technique de loisirs, fait que j'ai pas pu voir la chose, j'ai pas pu entendre la chose non plus, mais c'est le directeur général qui faisait office au niveau du scrutin. Moi, je pense bien qu'il y a, dans le fond, là, c'était pas l'ensemble des bulletins qui avaient été sortis du scrutin à ce moment-là.
Ouais.
Et on va comprendre que c'est pas un vote à ce moment-ci qui aurait pu faire la différence, ni d'un côté, ni de l'autre.
Non, je comprends, mais il y a personne qui vous a dit après, « Hey, Michel, tu sais pas quoi, on avait commencé à dépouiller le bulletin, puis un tel avait pas voté? »
Non, j'ai pas eu connaissance de ça, puis est-ce que ça s'est passé pour de vrai, ben ça, je vais le demander au directeur général de la MRC, mais... En l'occurrence, j'ai pas eu connaissance de ça.
Ouais. Non, ben vous comprenez que c'est parce qu'à un moment donné, ça fait pas très sérieux là, quand on commence à dépouiller, puis il y en a un qui dit ouais, j'ai pas voté.
Ouais, mais regardez, je ne sais pas si c'était le cas, M. Saint-Pierre, ou c'était effectivement de mettons, de la fabulation de la personne qui était là.
Alors, si vous me dites que vous le savez pas, vous le savez pas. Merci, M. Lagacé.
Merci, M. Pierre.
Plaisir. 9h41, le préfet de la MRC, Michel Lagacé. Non, mais c'est le genre de truc qui t'arrive à un moment donné, si c'est vraiment arrivé, là, parce que... Bon, on me rapporte ça, là. Mais, tu sais, le vote est... j'ai oublié de voter! Ben oui, mais le temps est fini. Vote plus. C'est fini! On a commencé à dépouiller. Là, on le sait, là... que ça a été très serré. C'est-à-dire, on le sait que ça n'a pas été serré. Mais au moment où le gars, out of bound, ou la fille, parce qu'on m'a pas dit si c'était un gars ou une fille, au moment où, en dehors du temps limite, il a pas voté, mettons que c'est égal, puis que c'est son vote qui fait la différence. C'est comme le gars qui arrive en retard au bureau de scrutin puis dit « Hey, barrez pas la porte, j'ai oublié de voter! » Ben, on va lui dire « Écoutez, monsieur, il est trop tard. Trop tard. » Vous auriez dû venir avant. 9h42. C'est plus dans ce sens-là.